En effet, donc, nous sommes à la page 445. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achas et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Les étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes, c'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien m'écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Je vous invite à la prière d'abord, prions. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Merci pour cette parole. Et nous voulons te demander ce matin de nous montrer ta grandeur, ta sainteté, ta justice dans cette parole. Père, nous voulons te demander à nous aider à te voir, à te comprendre davantage. Et Père, nous voulons te demander également de nous conduire sur les voies de la sainteté, sur tes voies. Instruis-nous, avertis-nous et change nos cœurs aussi. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce livre nous lance un grand défi, n'est-ce pas? C'est un grand livre. Ce n'est pas le livre le plus facile de la Bible. Il y a 66 chapitres. Il a été écrit il y a 2700 ans. Et c'est vrai, c'est un livre qui est quand même marqué par son époque. Certes, nous connaissons bien peut-être deux ou trois passages de ce livre. Bien sûr, il y a le chapitre 53 qui parle du serviteur souffrant. Ce passage qui s'est accompli en Jésus-Christ, il décrit de manière sublime, de manière riche, la portée du sacrifice de Jésus, ce que sa victoire sur la croix a accompli. Alors, à Noël, on n'a pas fait ce Noël, mais je pense peut-être qu'on l'a fait à la Défense, mais nous avons l'habitude de lire le chapitre 7 d'Ésaïe. Ce chapitre qui parle d'Emmanuel, le fait que Dieu est avec nous. Et ensuite, dans le verset 9, nous avons ce passage qui parle de l'arrivée d'un roi. Ce roi qui est Dieu lui-même. Je cite, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Mais si nous sommes honnêtes, nous trouvons le reste de ce livre parfois difficile. C'est difficile de retenir la ligne mélodique, si on veut, ou la structure, ou l'argumentation de l'auteur. Et pourtant, nous avons un sentiment que c'est un livre très important dans la Bible. Ce livre est un des livres le plus cités du Nouveau Testament. Parfois, il y en a qui l'appellent le cinquième évangile. Et en quelque sorte, c'est l'épître aux Romains de l'Ancien Testament. C'est un livre qui parle si clairement du salut et aussi de la justification par la foi seule. Ce livre, comme l'évangile de Jean, nous fait voler haut et loin. Il nous fait monter sur les ailes d'un aigle pour voir les desseins de Dieu, pour voir la personne de Dieu, pour sonder les richesses de sa sainteté, de sa miséricorde. Il nous donne un aperçu de sa beauté, de la profondeur du salut. Ce livre est également d'une perspicacité humiliante. Il dévoile la bassesse de l'homme, sa misère et son besoin du salut. Alors, le premier mot de ce livre est traduit par le mot « vision ». On le voit là au verset 1. C'est un mot qui parle de perspicacité. Ésaïe a vu clair. Son regard a une intensité perspicace. Il veut partager ce qu'il a vu et compris pour nous aider à voir clair, et voyons clair, à nous humilier devant Dieu, dans la repentance et la foi. Et fort de la grâce que nous trouvons en Dieu, on peut penser à Ésaïe chapitre 53, fort de cette grâce à espérer en lui, de vivre pour lui dans la simplicité de l'obéissance. Alors dans les semaines à venir, on va se contenter à étudier les 6 premiers chapitres de ce livre. Je vous invite à prier pour moi, aussi pour Jonathan qui va m'aider dans cette série. On n'est pas des experts, donc on a besoin de vos prières pour enseigner ce livre avec clarté et fidélité. Et la question à vous poser pendant cette série, mais en fait c'est la question à vous poser chaque dimanche matin, c'est est-ce que ce texte dit ce que le prédicateur dit qu'il dit ? L'autorité du prédicateur, un prédicateur est toujours une autorité déléguée. Il ne peut parler avec autorité dans la mesure où il annonce ce que la Bible dit vraiment. Car c'est elle, la Bible, qui est la voix de Dieu. La parole qui fait autorité et qui doit être le maître de nos consciences. Alors pourquoi étudier ces 6 premiers chapitres ? Alors c'est au chapitre 6 que nous découvrons l'appel de ce prophète, le prophète Ésaïe. Pour ceux qui ont déjà lu ce livre, vous rappelez sans doute cet appel. C'est un passage glorieux, lumineux, parce que le prophète voit quelque chose de Dieu lui-même. C'est le début de son ministère. Et les 5 chapitres précédents, donc les chapitres 1 à 5, ne sont pas ce qu'Ésaïe a vu avant son ministère. Mais ces chapitres forment l'introduction à ce livre. Il nous donne un aperçu global du message de ce prophète, ou un avant-goût de ce qu'il va dire. Et ce qu'on va voir ce matin, le chapitre 1, nous donne aussi un aperçu global de tout le livre. Il commence à nous montrer où Ésaïe, ou plutôt où Dieu, veut en venir. Ésaïe veut nous parler de Jérusalem. Dans notre passage, on le voit au verset 8, Ésaïe évoque la fille de Sion. Et à partir du verset 21, donc le passage qu'on va aborder la semaine prochaine, Ésaïe parle de la ville de Sion, son présent et aussi son avenir. Ésaïe veut nous parler de Jérusalem. Il veut nous parler de Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça au verset 2? Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. Oui, cette prophétie a été donnée par Ésaïe au peuple de l'Alliance, donc le peuple juif, il y a plus de 2700 ans. Mais elle nous est adressée aussi, parce qu'elle concerne notre espérance. Jérusalem est notre espérance. Jérusalem est l'espérance de chaque être humain sur la terre, qu'il le sache ou non. À l'époque de l'Ancien Testament, Jérusalem était la capitale du peuple juif. Le peuple qui, par son obéissance à l'Alliance, devait montrer la grandeur de Dieu à toutes les nations de la terre. Jérusalem était le lieu du temple, là où Dieu habitait, résidait avec son peuple. Ésaïe, Dieu, a un message pour Jérusalem. Ce message est un message difficile. C'est un message de jugement. Mais ce jugement, et on va le voir, n'est pas la fin de l'histoire. Le chapitre 66, donc le dernier chapitre de ce livre, nous parle d'une nouvelle Jérusalem. Une Jérusalem qui va bénir toutes les nations de la terre. Ésaïe veut nous parler de la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu qui est saint va bénir sa ville et par elle les nations, pour leur bien mais aussi pour sa gloire. Alors nous allons le voir dans les semaines à venir, Ésaïe est un prophète de son époque qui a parlé au roi de son époque. Il est un prophète, et les prophètes avaient la tâche de ramener les rois et le peuple de l'Alliance à Dieu, à les aider à rester fidèles à l'Alliance que Dieu avait conclue avec son peuple, à vivre dans l'obéissance que la grâce reçue suscite. Ésaïe va annoncer également l'avenir. Il va lui montrer que Dieu va rester fidèle, vaille que vaille, à son Alliance, à ses promesses. Son message avait une pertinence toute particulière pour les rois. Mais son message est aussi d'une actualité brûlante pour nous. Alors on va commencer ce matin en essayant de comprendre la situation dans laquelle Jérusalem et Juda se trouvent. On va voir que la situation est vraiment terrifiante. Ensuite, on va essayer de comprendre le pourquoi de cette situation-là. On va le faire en deux étapes. Il y a deux grands problèmes. Et finalement, dans un troisième temps, Ésaïe nous montre la voie de sortie pour ce peuple, pour le peuple d'Israël. Il leur montre la voie raisonnable, celui qui scie au peuple qui appartient à l'Éternel. On va commencer avec cette situation terrifiante. Nous sommes au verset 5 à 9. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Israël a été scindé en deux. Il y a le royaume du nord, il y a aussi le royaume du sud. Et dans le sud, nous avons que la tribu de Juda et le reste la tribu de Benjamin. Ésaïe, ce prophète, lui, est à Jérusalem. On le voit au verset 1. Il a exercé son ministère durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, les rois de Juda. Nous pouvons lire ce qui se passe à cette époque dans les livres bibliques de Deux Rois et Deux Chroniques. L'époque a commencé par une période de prospérité sans précédence. C'était un peu les 30 glorieuses de leur époque. Mais cette prospérité n'allait pas durer. La catastrophe allait s'abattre, d'abord sur le royaume du Nord, et ensuite progressivement sur le royaume du Sud, sur Jérusalem et sur Juda. Et on le voit dans la suite de ce livre. On en a déjà un aperçu dans le passage de ce matin. Jetez un coup d'œil sur les versets 5 à 9. Tout n'est pas beau. Ésaïe compare son pays à un guerrier ou un esclave qui a été battu, brutalisé dans une bataille, qui est couvert de blessures, qui est couvert de plaies qui n'ont pas été soignées ou guéries. Et ce peuple est têtu. Il est mal en point, mais il persiste et signe. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 5, « À quoi bon vous frapper encore ?» Ensuite, Ésaïe compare sa ville à une cabane dans une vigne ou à une hutte dans un champ de concombre. Alors c'est vrai que c'est une comparaison un peu bizarre pour nous qui sommes citadins. Mais il nous parle de ces cabanes qui sont construites juste pour un temps, qui servent à abriter les moissonneurs et qui sont ensuite abandonnées à leur sort, qui tombent ensuite en ruine. Jérusalem est seule, délabrée, en proie à ses ennemis. Elle est une ville assiégée. Et la situation est vraiment terrifiante. Jérusalem est sans force. Elle est faible. Elle a été réduite à rien. Et c'est quelque chose qu'Ésaïe a expérimenté. En effet, Jérusalem a été assiégée par les Assyriens pendant son ministère. Assyrie, c'était une nation, probablement c'est l'Iran aujourd'hui. Et Jérusalem a été assiégée par cette nation pendant le ministère d'Ésaïe. Épargnée, mais de justesse. Le verset 9 l'évoque, « Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome. Nous ressemblerions à Gomorre. » Et ce thème de la grâce de Dieu, ce thème d'un reste sauvé, sera un thème très important dans ce livre. Alors, ce n'est pas facile de lire les prophètes de l'Ancien Testament parce que ce n'est pas facile de savoir comment appliquer ces passages à notre vie aujourd'hui. Si on les applique directement à nos vies, comme si nous vivions il y a 27 siècles, nous serions conduits à faire plein de choses un peu bizarres. Certains essaient d'allégoriser ces situations en pensant à toutes les situations terrifiantes auxquelles ils doivent faire face. Dans cette vie, ils essaient de tirer quelques leçons spirituelles de ce qui se passe dans les passages. Par exemple, peut-être quelqu'un dirait « Alors, quand est-ce que ma vie ressemble à une hutte dans un champ de concombre ou à une ville assiégée ?» Mais il faut comprendre ces passages d'abord dans leur contexte historique, avant de passer à notre situation, avec notre contexte historique et personnel. Nous ne vivons pas en Israël, nous ne sommes pas des Juifs. Ceci dit, nous sommes l'Église. Comme le peuple juif de l'Ancien Testament, nous sommes le peuple de l'Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance. Et c'est le livre de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, qui nous apprend comment appliquer ces passages. Et on voit que toutes ces prophéties se réalisent en Jésus-Christ. Toutes ces promesses sont oui en Jésus-Christ. Et en Jésus, nous sommes devenus proches, nous qui étions loin, nous sommes devenus ce peuple de l'Alliance. En contemplant ces images graphiques qui nous montrent les conséquences logiques, inévitables, terribles du mal et du péché, nous pouvons apprécier encore plus le travail, l'œuvre de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, le serviteur souffrant sur qui la colère de Dieu est tombée, afin que nous puissions échapper à cette colère. Ces prophéties nous aident à comprendre le cœur de l'Évangile. Et en regardant en arrière, en regardant au peuple juif assiégé par le peuple assyrien, dans une situation terrifiante, Dieu nous parle encore, à nous qui sommes les sujets de sa grâce, de ce qu'il pense au fond de lui-même du péché. Il nous montre le cœur humain aussi, parce que la nature humaine n'a pas changé en 27 siècles. Et le Dieu qui ne change pas nous montre sa sainteté. Il nous montre l'obéissance qui lui plaît, qui convient à un peuple qui lui appartient. Vous voyez bien que ce passage peut bien nous instruire et aussi nous avertir. On va passer au premier problème. On est au verset 2 à 4. Oui, le passage est très clair. Si Judas est mal en point, c'est qu'il récolte, ou qu'il récolte ce qu'il a semé. Il moissonne le salaire de ses fautes. Revenons au début de notre passage, donc versets 2 à 4. Qu'est-ce que le peuple a fait au juste? Dans ces premiers versets, Dieu dévoile son cœur, ce qui démontre l'intensité de ses émotions. Notre Dieu est une personne. Il n'est pas une force, c'est pas la guerre des étoiles. Dieu n'est pas une force, mais une personne. Il est personnel. Verset 2, si elle écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu se comprend comme un père. Non pas de chaque être humain, mais de son peuple. Le peuple avec qui il avait conclu une alliance. Il les considère comme ses propres enfants. Ce n'est pas qu'il y ait un lien biologique. L'accent dans ce passage est mis plutôt sur le fait que Dieu a élevé ses enfants. Il les a éduqués. Il a pris soin d'eux jour après jour. Mais ses enfants ne lui ont pas montré leur appréciation. Tout au contraire, ils se sont révoltés contre lui. Littéralement, ils ont marché contre lui. Ils lui sont rentrés dedans. Et Dieu connaît la douleur d'être trahi par ceux qu'il a aimés le plus. Cette notion de révolte est au cœur de la doctrine du péché. Certains d'entre vous sont parents, et certains d'entre vous ont peut-être expérimenté des situations difficiles avec vos enfants. Vous pouvez peut-être vous identifier avec Dieu. En tout cas, Dieu peut s'identifier avec vous. Ce n'est pas facile d'être un parent, et c'est difficile d'élever un enfant dans la foi. Et Dieu le sait bien, Dieu sait ce que c'est de voir des enfants s'éloigner de la foi. Dieu poursuit son accusation au verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Ici, l'image a changé. Dieu ne parle plus d'être un père, mais d'être le propriétaire, ou peut-être le berger, celui qui donne de quoi manger à ses bêtes. Il dit que son peuple, Israël, est plus bête que les bêtes des champs. Il ne connaît rien. Il n'a pas d'intelligence. Et ces verbes, donc connaître et puis discerner, sont vraiment des verbes qui sont au cœur de l'alliance, ce que ça veut dire d'avoir une alliance avec Dieu. C'est la connaissance de Dieu, un discernement de la grandeur de sa personne, de ses œuvres, la nature merveilleuse de ses œuvres. Jésus a dit au sujet de la vie éternelle que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Celui qui est à Dieu le connaît et il est connu de lui. Il est celui qui est ébloui par les œuvres de Dieu et qui vante ses hauts faits pour que la terre tout entière soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, tout comme le fond de la mer est recouvert par les eaux. Mais cette connaissance fait défaut au peuple de l'Alliance. Il a oublié comment Dieu l'a sauvé de l'esclavage en Égypte, comment Dieu lui a donné sa bonne loi et lui a donné la victoire sur ses ennemis. Le verset 4 nous dit avec la force de la poésie que le peuple est une nation pécheresse, un peuple chargé de fautes, des faiseurs de mal, des enfants corrompus. Alors ce n'est pas surprenant, car là où la connaissance de Dieu est oubliée, minimisée, édulcorée, logiquement, cruellement, inévitablement le péché abonde. Celui qui ne vit plus cette relation de père à l'enfant avec Dieu, celui qui ne s'émerveille plus de sa personne, de ses œuvres, sombre inévitablement dans un style de vie aux antipodes de celui qui plaît à Dieu. Dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, Pierre lui rappelle que celui qui n'a pas les qualités d'un chrétien, notamment la sainteté personnelle, l'amour fraternel, il dit: il a été aveuglé par sa myopie. Pierre nous explique que celui-là a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. L'oubli spirituel a toujours des conséquences dramatiques dans notre vie. C'est inévitable. Si on s'éloigne de l'Évangile, si on oublie que Dieu est notre Père, si on se lasse de nous rappeler semaine après semaine l'amour de Dieu tel qu'on le voit à la croix, ben on devient bête. On devient plus bête que les bêtes des champs. Le verset 4 nous montre l'ampleur du désastre relationnel que le peuple de Dieu a connu. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Ils ont abandonné celui qu'ils avaient pourtant connu. Le grand « Je suis qui je suis ». Celui qu'Ésaïe appelle le Saint d'Israël, leur Dieu de sainteté. Ce Dieu qui est tout autre, moralement pur. On ne peut pas vivre de manière impure et prétendre garder une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas se moquer de lui en vivant n'importe comment et en se vantant en même temps d'être son ami, son disciple. Dieu est un Dieu saint. Il avait commandé à son peuple d'être un peuple saint, d'être saint comme lui est saint. Et Jésus nous le rappelle dans le serment sur la montagne. Si Israël a connu Dieu comme un père, comme un propriétaire aussi, et comme un maître, comme l'Éternel, nous chrétiens nous pouvons dire que notre connaissance de Dieu est encore plus approfondie. Grâce à l'Esprit, nous l'appelons Abba Père. En Jésus, nous savons que nous sommes des enfants adoptés. Nous avons été pardonnés, lavés, vêtus de sa justice, amenés dans sa présence, la présence d'un Père qui nous aime et qui nous a aimés au point de donner son Fils unique pour nous sauver. N'abandonnons pas notre Père. Ne méprisons pas notre Maître, le Saint d'Israël. Ne l'abandonnons pas par nos voix, par nos choix, mais en nous rappelant sa bonté, sa grâce, restons proches de lui, célébrons-le, prenons plaisir en lui, en sa sainteté. Est-ce que vous voyez comment ces versets dévoilent le cœur de Dieu? Notre Dieu est encore comme ça. Il est un Dieu personnel et relationnel. Notre comportement est de la plus grande importance pour lui parce qu'il dévoile, notre comportement dévoile ce que nous pensons au fond de nous-mêmes de Dieu, de notre appréciation pour lui ou notre mépris pour lui. Si Israël ressemble à une lutte dans un champ de concombre, une ville assiégée par ses ennemis, s'il ressemble à un esclave ou un guerrier battu, brutalisé, blessé, c'est qu'il subit la colère logique de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu dont la colère est arbitraire ou irrationnelle, mais sa colère est juste, logique, mesurée, et en même temps elle est personnelle, car Dieu est un Dieu personnel. Dieu est juste et c'est dans la nature même de Dieu d'être miséricordieux. Il ne peut pas s'empêcher de vouloir être clément, de montrer sa grâce, et le verset 9 nous le montre. Il aurait pu effacer Rayé, Juda et Jérusalem de la carte, mais il ne l'a pas fait. Il y a un reste. Car son projet de lui faire du bien et de faire du bien aux nations, par lui, par Jérusalem, ne sera pas contrecarré, même par la trahison personnelle. Au verset 10 à 17, nous gagnons un aperçu encore plus clair du problème, donc c'est cette deuxième partie du problème. Dieu, par le biais de la vision d'Ésaïe, lui dit ce qui le lasse profondément. Et ce qui le lasse au point où il appelle le peuple de l'Alliance Israël, Sodome et Gomorre. C'est fort. Ce sont ces deux nations que Dieu lui-même a rayées de la carte il y a des siècles. Et ça montre à quel point Dieu n'en peut plus. Et son exaspération est vraiment palpable dans ce passage. Verset 11. « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, je suis rassasié ou j'en ai assez. » Des holocaustes. Verset 14. « Je déteste vos débuts de mois. Vos fêtes, c'est un fardeau qui me pèse. » Dieu ne mâche pas ses mots, n'est-ce pas? il en a véritablement marre. Il exprime d'une manière on ne peut plus claire. Et qu'est-ce qui le lasse tant? Le verset 13 nous le dit clairement. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. C'est la juxtaposition de l'injustice et la religiosité qui le lasse tant. Il ne supporte pas le mélange de malfaisance et de culte, de spiritualité. On a vu au verset 2 à 4 qu'Israël avait abandonné leur père, leur maître, leur seigneur. Mais ils n'avaient pas abandonné le culte. Ils n'avaient pas cessé d'aller au temple, de présenter les sacrifices, de prier. Ils continuaient de faire tout ça. Vous savez, ils sont tombés dans un vieux piège. Un piège dans lequel quasiment toute religion humaine tombe. C'est le piège de l'animisme. Ils pensent pouvoir manipuler Dieu, contrôler Dieu, par ce qu'ils font, par des actes, par des rites. Ils pensent que si tel et tel rite est fait, Dieu va réagir, c'est sûr. S'ils prient, s'ils offrent un sacrifice, s'ils donnent, s'ils chantent, Dieu sera satisfait. Il agira en conséquence. Et ils oublient que Dieu est personnel. Et qu'avant tout, Dieu cherche leur cœur, l'obéissance de leur cœur, l'amour de leur cœur. Et on voit bien que leur cœur n'y est plus. C'est le verset 13 qui nous le montre. Le verset 13 nous parle de l'iniquité du peuple, ou l'injustice du peuple. Dieu parle du fait que son peuple n'aime plus ou n'aime pas son prochain comme lui-même. Le verset 15 parle de sang sur les mains, de l'oppression. Dieu voit que son peuple, peut-être les rois en premier, ne se soucie guère des faibles de la société. Et malgré cette injustice, il se présente au temple, semaine après semaine, comme si de rien n'était. Croyant naïvement, bêtement, que Dieu va répondre à leur prière, à leur sacrifice. Mais Dieu leur annonce les couleurs dans les termes qui ne sont pas incertains. Il leur dit non, ça va pas. Dieu ne va pas jouer ce jeu-là. Il ne prend pas plaisir en de tels sacrifices. Il va même détourner ses yeux de la prière. Alors Dieu n'est pas contre l'adoration. C'est lui qui a institué le culte israélite. Mais ce qu'il désire avant tout, c'est le cœur de son peuple, l'obéissance du peuple. Et ce passage est pour nous une grande instruction. Ce passage est d'un grand avertissement. Car notre Dieu n'a pas changé en 27 siècles, et les pièges de la religion formaliste, purement externe, sont encore là. Où en sommes-nous? Nous aussi, nous pouvons nous errer en pensant que tant que nous allons à l'église, tant que nous allons chanter le dimanche matin, tant que nous donnons financièrement à l'église, tant que nous évitons de commettre des péchés scandaleux, tant que nous participons à l'équipe de ménage, que Dieu va être satisfait, il va nous bénir, que tout va aller bien. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 qu'en réponse à la grâce qui nous a été montrée en Jésus-Christ, nous devons offrir un culte raisonnable à Dieu. Un culte d'obéissance qui se vit par une vie consacrée au Seigneur. Une consécration qui est visible dans toutes les facettes de notre vie. Une de nos tentations, je pense, c'est de pratiquer la grâce à prix cassé. Oui, le chrétien en Jésus-Christ, on l'a dit ce matin, n'est plus condamné. Et ça, c'est merveilleux. Il faut apprendre à nos cœurs à croire cette vérité-là. Parfois, ce n'est pas facile de croire ça, mais il faut que nous apprenions, que nous disions à nos cœurs de croire cela. Comme l'apôtre Paul a dit haut et fort, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais loin de nous démobiliser, loin d'excuser nos fautes, notre manque de zèle pour le Seigneur, cette grâce-là, si elle est bien comprise, nous enseigne à vivre pour Dieu. Et c'est cette obéissance-là qui découle du cœur qui plaît à Dieu. Notre obéissance plaît à Dieu. Si notre adoration est purement formelle ou externe,
Dieu nous avertit ici. Nous meurons. Pour Dieu, cette adoration-là est vaine. On peut chanter, on peut lever nos mains. Mais si le cœur n'y est pas, si l'obéissance n'est pas là, cette adoration-là est vaine. Le passage ce matin clôt sur une note d'instruction positive. Elle nous montre la porte de sortie, la porte de santé spirituelle. Et cette porte-là, c'est la porte de la repentance sincère. Relisons les versets 16 à 17. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et nous avons là, je pense, une définition, une description de la repentance sincère. Oui, du point de vue chrétien, si on connaît bien le Nouveau Testament, on sait qu'on a besoin de l'action de l'Esprit si on va faire ça. Naturellement, de nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Mais il n'empêche que c'est ça, la repentance, et l'accent est mis sur notre action dans ce passage. C'est ça, ce changement de cap radical. Ça s'opère dans nos actes. C'est Jean-Baptiste qui parlait de la repentance et des fruits dignes de la repentance. Alors Dieu ne parle pas de sacrifice, de chant ou de dîme donnée à l'Église ici, mais il parle de justice et du bien. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Mais il choisit de mettre l'accent sur cette vie qui se donne au bien, au beau, au bon. Et ce message n'a rien perdu de son actualité. La forme extérieure de la vie chrétienne est pareille. Pour ceux qui ont mis la foi en Jésus, Dieu désire que nous vivions la grâce que nous avons reçue en la donnant aux autres, en cherchant leur bien. Et ça dans la vie de tous les jours. Alors ça serait logique d'appliquer ça d'abord à notre vie d'église, la communauté des chrétiens, mais ça ne se limite certainement pas aux seuls membres de l'église. Cherchons cette semaine le bien de nos collègues. On peut faire ça de multiples manières. Cherchons le bien de nos voisins, mais aussi ceux que nous rencontrons dans la rue, dans le métro. Et soyons particulièrement sensibles à ceux qui sont faibles, isolés, méprisés. Oui, on pense tout naturellement aux grands projets qui luttent contre l'injustice dans le monde, aux ONG. Et c'est bien sûr important de les soutenir. Mais Dieu se soucie d'abord de ce que nous faisons nous, autour de nous, dans notre vie quotidienne. Ensuite, c'est le pardon qui se profile. À l'horizon, l'image du verset 18 est particulièrement vivace. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. La repentance et le pardon vont de pair dans l'économie de Dieu. C'est la suite de cette prophétie, notamment le chapitre 53, qui expliquera sur quelle base ce pardon est possible. Ce n'est pas notre repentance, notre obéissance qui mérite le pardon. Ce n'est pas que l'obéissance gagne le pardon ou est donnée en échange du pardon, comme si Dieu pouvait nous devoir quelque chose. Non, la repentance sincère conduit inéluctablement à l'obéissance. Et Dieu pardonne ceux qui sont sincèrement repentants. Si notre cœur n'est pas désireux de changer, de lui obéir, c'est que cette repentance n'est pas encore sincère. Les versets 19 et 20 reformulent les grands termes de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dans le Sinaï. L'obéissance conduit à la bénédiction et la désobéissance à la malédiction. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois généralement vrai, toujours vrai, quelle que soit l'époque, et quelque chose de particulièrement vrai dans la vie du peuple de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance. Et la suite de cette prophétie va nous montrer que la malédiction va s'abattre sur Jérusalem, sur Juda. parce que ce peuple ne va pas répondre positivement à l'appel de Dieu. Il va connaître l'exil. Mais cela ne sera pas la fin de l'histoire, parce que de manière plus grande encore, et d'une manière beaucoup plus satisfaisante, voici le roi serviteur, le roi souffrant, dont parle Ésaïe 54, celui qui, malgré son obéissance, va connaître la malédiction que nos fautes méritent. Et cela afin que nous puissions échapper à cette colère, échapper à cette malédiction. C'est tous ceux qui se repentent, et on le voit dans le chapitre 66, on va voir ça la semaine prochaine, ceux qui s'accrochent à la grâce, qui peuvent connaître cette bénédiction, même s'ils méritent la malédiction. Et pourtant, même si nous sommes à l'abri de cette malédiction-là, même si nous sommes à l'abri de cette colère, cachée en le roi serviteur, celui qui a pris cette colère à notre place. Ce passage nous avertit. Ne nous moquons pas de notre Dieu si miséricordieux. Ne jouons pas avec lui. Mais fort de la grâce, émerveillé par son amour, prenons plaisir en lui qui est notre Père, époustouflé par la grandeur de sa générosité en Jésus, plein de reconnaissance pour son salut immérité. Donnons-nous à lui de manière entière. Voici l'obéissance qui lui plaît. On va demander à Dieu dans la prière de nous aider à vivre cette repentance sincère et cette obéissance bienfaisante qui en découle. Prions. Merci notre Père de ce que tu nous as pas laissé dans l'ignorance, dans l'hostilité à ton égard, dans la désobéissance complète. Le péché nous fait du mal, il fait du mal aux autres. Et Père, nous étions esclaves de ce mal, de ce péché, avant d'avoir connu ton plan de salut, ton salut en Jésus-Christ. Et Père, nous voulons te remercier du fond de nos cœurs pour Jésus, pour cette libération que nous avons en lui. Merci de ce que la malédiction est tombée sur lui et non pas sur nous. Aide-nous à nous accrocher à lui cette semaine. Et fort de cette grâce-là, à vivre pour toi. Aide-nous à faire du bien à ceux que nous rencontrons, à ceux qui sont dans l'Église, mais aussi à ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Donne-nous des occasions de partager ta parole et à aimer autrui par les petits gestes, par les grands gestes. Donne-nous d'avoir un cœur entier envers toi, à montrer la sincérité de notre relation avec toi par nos actes dans la vie quotidienne. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de l'aide de ton esprit. Nous t'en supplions, notre Père, aide-nous cette semaine à vivre pour toi, à marcher dans ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.